travail, une valeur en voie de disparition, et donc dans lequel je critiquais en fait la place occupée par le travail. Et dans ces recherches, ce à quoi je m'étais heurtée tout de suite, c'était quand même à cette idée assez massive que le travail était le seul facteur de production, enfin la seule source de richesse, hein, ce que dit Marx d'ailleurs. Alors c'est cette idée que j'avais voulu regarder de plus près, et notamment cette focalisation à sa production, et que la production, ça serait vraiment le meilleur, l'élément principal, le critère principal de mesure pour voir si une société est riche. Alors j'ai commencé cette réflexion en regardant un texte qui m'avait beaucoup intéressé quand j'avais donc écrit sur le travail, qui est un texte de Malthus, Les principes d'économie politique, donc que moi. Mais moi, ça m'avait passionné parce que tout le premier de ce livre était consacré à la richesse, et j'avais l'impression qu'il ouvrait la boîte noire de l'économie, c'est-à-dire que pour une fois, on voyait vraiment ce que les économistes avaient derrière la tête, et donc on le voyait progresser. Et donc, dans ce texte, où Malthus, la définition de la richesse, il commence par dire qu'il y a deux définitions de la richesse qui s'opposent, ou de moins deux courants de pensée. Il y a, dit-il, ceux qui ont donné une définition trop restrictive de la richesse, ce sont les physiocrates, et puis ceux qui ont donné, selon Malthus, une définition trop extensive, et qui pensent que la richesse, c'est tout ce que l'homme désire comme pouvant lui être utile et agréable. Alors, définition, dit Malthus, embrasse toutes les choses matérielles ou intellectuelles, tangibles ou non, qui procurent de l'utilité ou des jouissances à l'espèce humaine. Alors, Malthus va critiquer radicalement cette deuxième définition, qui est donc extrêmement large. Et au bout d'un certain temps, il argumente et dit pourquoi on ne peut pas accepter cette définition très large, donc, parce que nous ne pourrons aborder aucune discussion sur l'accroissement relatif de la richesse chez les différentes nations si nous n'avons un moyen quelconque d'évaluer la somme de cet accroissement. Donc voilà, ce dont on a besoin absolument, c'est d'un outil pour évaluer l'accroissement, c'est donc d'exhiber un accroissement et de le montrer aux autres. Et puis, autre chose qui m'a semblé très intéressante dans le texte, pourquoi est-ce qu'on doit faire cela? Pourquoi est-ce qu'on doit exhiber des accroissements? C'est non seulement pour exhiber sa puissance aux autres nations, pour leur montrer quelque chose qui doit donc être quantifié, mais c'est aussi parce qu'on doit d'une certaine manière stabiliser l'économie, cette science naissante, et je vous cite cette phrase magnifique. Si, dit Malthus, avec Monsieur Say, nous voulons faire de l'économie politique une science positive fondée sur l'expérience et susceptible de donner des résultats précis, il faut prendre le plus grand soin d'embrasser seulement, dans la définition du terme principal dont elle se sert, donc la richesse, les objets dont l'accroissement ou la diminution peuvent être susceptibles d'évaluation. Voilà. Donc il me semble que là, il y a une sorte de coup de force de l'économie et de coup de force qui se donne à voir. Puisqu'on nous raconte donc que puisqu'on veut une science positive, une science solide, qui doit être exacte, eh bien nous avons besoin de choses tangibles, et nous avons besoin d'une définition de la richesse qui n'est pas extensive, mais qui va en fait pouvoir mesurer des objets matériels, concrets et des accroissements. Alors, ce qui se passe par la suite dans ce qui, évidemment, on retrouve après la question du travail productif et improductif, et puis on retrouve aussi toute une série de raisonnements de Malthus, notamment sur toutes ces choses dont on a quand même bien l'impression que c'est très important pour une société, mais qui ne peuvent pas être rentrées dans le concept de richesse. Et donc, par exemple, Malthus écrit « Estimer la valeur des découvertes de Newton ou les jouissances causées par les productions de Shakespeare et de Milton par le prix que leurs ouvrages ont rapporté, ce serait une bien chétive mesure du degré de gloire et de plaisir qui en est résulté pour la patrie. » Donc, d'un côté, on a des accroissements de matériel, ça sera ça la richesse, et puis de l'autre côté, on a toute une série de choses très importantes pour la société et pour son développement, mais les rentrer là-dedans, les quantifier, on dit qu'elles sont très très importantes, et puis évidemment, on n'y reviendra pas. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que un gros siècle plus tard, la stabilité nationale va même de ces postulats-là, c'est les travaux de Fourquet qui ont bien mis ça en évidence. Si comptabilité nationale, on va à nouveau essayer de cerner la production, et on va évidemment mettre en évidence ou reposer sur ce postulat que c'est bien la production qui représente la richesse d'une société, et notamment dans un premier temps la production marchande, hein, avant 1976, puisqu'on sait qu'après, la production non marchande sera également prise en compte. Donc il me semble que la comptabilité nationale ne fait que... qu'avait bien mis en évidence ce Malthus, que la richesse d'une société se mesure à la grosseur de son PIB. Alors, on peut comprendre évidemment ce raisonnement, on peut le comprendre au 18e, on peut le comprendre aussi au moment où s'invente la comptabilité nationale dans l'entre-deux-guerres et puis pendant la reconstruction, mais en revanche, on peut se demander si aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose pour comparer les performances des sociétés, leur capacité à produire et à consommer, leur capacité surtout fondée sur une moyenne à produire et à consommer, et se le demander s'agissant de sociétés où ce qui compte, nous dit-on, c'est la matière grise, ou bien dans des sociétés où coexistent d'énormes capacités de consommation et puis des sous-capacités de consommation, je dirais dans des sociétés qui détruisent beaucoup à l'occasion de la production, qui détruisent du capital naturel, des équilibres sociaux ou des capacités individuelles à subsister. Donc, est-ce qu'il n'est pas anachronique de conserver pour désigner la puissance d'une société le simple produit intérieur brut, notamment dans nos sociétés modernes, où quelque chose où c'est également très important de protéger les ressources naturelles, de protéger la cohésion sociale, de développer le potentiel de matière grise, mais aussi des tas d'autres choses, par exemple de développer la capacité de chaque individu à parvenir à l'autonomie, qu'on pourrait peut-être rassembler sous le terme, comme l'avait fait le PNUD, de développement humain en 1996. Je vous rappelle juste la définition du PNUD, hein. Le développement humain est une fin dont la croissance économique est le moyen. Il n'existe pas automatiquement de lien entre croissance économique. Ce qui était intéressant dans ce rapport sur le développement humain du PNUD, c'était ce doute jeté sur la croissance, c'est-à-dire que la croissance n'était pas nécessairement bonne. Je vous cite encore cette phrase, hein. La croissance, sous la forme qu'elle revêt, accroît-elle la sécurité, la liberté, le contrôle qu'ont les personnes sur leur destinée? Favorise-t-elle l'équité aujourd'hui et entre les générations? Est-elle susceptible de se traduire par une plus grande cohésion et par une plus étroite coopération entre les individus, ou engendre-t-elle des conflits et la désagrégation de la société? Donc il y a quand même l'idée ici lancée que la croissance peut aussi engendrer des conflits et la désagrégation de la société. Alors, si on veut, il y en a eu beaucoup, et puis ça devient un peu, enfin, ça peut passer pour une sorte de tarte à la crème, mais moi, si je voulais résumer ma principale critique à l'égard de l'usage du produit intérieur brut, parce que tous les économistes disent bien qu'évidemment, ils n'utilisent pas le produit intérieur brut comme indicateur de bien-être, que c'est les médias qui le font, que c'est l'usage qui est fait du produit intérieur brut qui fait cela. Moi, je dirais que les évolutions du PIB ne nous donnent pas d'informations ou de signes. C'est-à-dire que, j'aimerais qu'on creuse cette idée, c'est... Je ne suis pas sûre que vous serez d'accord. Il me semble que ce qu'on poursuit tous ensemble, c'est l'amélioration du développement de la société. Et cette idée de survie ou d'état limite, elle me semble très, très importante, notamment qu'on serait attaché collectivement au maintien, à l'inscription dans la durée de la société, alors qui peut être notre petite société française, plus largement une société européenne, et puis évidemment, si on se met dans une perspective plus qu'ancienne, l'idée d'une mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut éviter les états limites où cette société pourrait disparaître du fait de guerres civiles, de guerres, de pollution majeure, et qu'il faut de la faire se maintenir, s'inscrire dans la durée. Et il me semble absolument évident que les facteurs à une société de se maintenir dans la durée ne ressortissent pas tous à la production. Il y a beaucoup d'autres choses qui... individus à la paix, leur capacité à être autonome, leur niveau d'éducation, de santé, etc. Alors, c'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'il y a un doute aujourd'hui sur la croissance et sur le fait que la croissance, peut-être, a aujourd'hui des gains de bien-être décroissants. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, au lieu de nous focaliser sur les évolutions du produit intérieur brut et pour mieux comprendre le développement de cette société, s'appuyer sur les évolutions d'un autre concept, d'un autre périmètre, d'un autre ensemble, qui serait quelque chose vaste que les seuls biens et services produits, et qui serait quelque chose comme un patrimoine écologique et social. Si je reviens sur les, et avant d'essayer d'idée d'un patrimoine un peu général, si je reviens sur les critiques du PIB, il me semble qu'on peut dire trois choses sur le produit intérieur brut pour essayer de comprendre ce que serait un autre ensemble dont on suivrait les évolutions. Le PIB ne valorise pas des types d'activités ou des temps extrêmement importants pour le développement des sociétés. Par exemple, je dirais le temps démocratique ou le temps avec les proches. Ces temps-là qui sont essentiels pour la survie et le maintien de la société, eh bien, le PIB les compte pour zéro, c'est-à-dire pour productif de rien, ce qui est quand même fort, quoi. Et c'est par exemple pour cette raison qu'il est difficile de mettre en évidence, par exemple, d'éventuels gains de la réduction du travail. Or, il y a bien eu des gains pour des gens, mais évidemment, comme ça compte pour zéro, ce genre de choses, on ne peut pas tellement les mettre en face des coûts de la dont les revenus issus de la production sont répartis entre les différents membres de la société. Donc il ne peut pas donner de signaux sur les éventuels facteurs de décohésion sociale. Et puis il ne prend pas en compte les dégâts occasionnés à l'occasion de la production, c'est-à-dire toutes les atteintes au patrimoine collectif dont est dotée une société à un moment donné. Alors il me semble que poursuivre ces facteurs-là, à la fois ceux qui peuvent favoriser un éclatement de la société, une balkanisation, et ceux qui peuvent améliorer son développement, il faudrait suivre les évolutions d'un ensemble beaucoup plus large. Et donc, je disais tout à l'heure, mais vous voyez que j'ai pas les instruments économiques pour aller beaucoup plus loin, mais suivre les évolutions d'une sorte de patrimoine collectif. Patrimoine collectif, Vanoli qui a écrit un bouquin très important sur l'histoire de la comptabilité nationale, a bien montré, comme d'autres d'ailleurs, qu'on avait pas mal travaillé depuis quelques années sur la question des atteintes à un capital dont on reconnaît aujourd'hui l'existence, qui est le capital naturel ou le capital écologique. Ça, on est à peu près capable de mettre en évidence les dégradations qui lui sont apportées, et on peut aussi mettre en face de certains actes de production les dégradations apportées à ce capital. Alors évidemment, c'est pas parfait. Pour suivre les évolutions de ce capital, il faudra avoir un recensement précis qu'on connaît bien. Mais je pense qu'il faut maintenant suivre le même raisonnement avec un autre type de patrimoine ou un autre type de capital, les mots sont compliqués là, qu'on pourrait appeler capital social si l'expression n'avait pas été préemptée dans une toute autre définition, un patrimoine social donc, qui pourrait être constitué, grossisté de cette société à maintenir ce capital-là, mais aussi du niveau d'éducation moyen des personnes, et peut-être aussi, si on va encore plus loin, une sorte de capital emploi, qui représenterait une sorte de stock des emplois existants avec leur qualité, et dont on pourrait suivre les évolutions, les dégradations, les améliorations. Peut-être on peut prendre deux exemples plus micro pour essayer de se représenter ça. Par exemple, quand une entreprise a recours à des mesures de flexibilité, à des CDD, à du travail temporaire, à de la modulation.